On est de retour à l'émission La Rage du Peuple sur les ondes de CFLX 95.5, la radio communautaire de l'Estrie. Donc, Guillaume, on est prêt à écouter ton résumé de littérature. Donc,
Et à le critiquer dans la mesure du possible.
Oui, bien sûr. C'est un ouvrage qui s'appelle Terrorism and Political Violence, qui a été va couvrir la période de 1880 à 1930, qui a été écrit par Richard Back Johnson, qui enseignait à la Louisiana Scholars Colleges, en Louisiane, puis qui a été publié en 2009, le 1er janvier, une drôle de date pour le faire. Puis l'ouvrage va parler, si on veut, de la formation du premier terrorisme moderne qui aurait été impulsé par les anarchistes au 19e siècle. Donc, pour vous donner une idée un peu pour ce qui est de la date, ça serait 1880, mais c'est certain que la pensée anarchiste existait de bien avant cette date. C'est seulement à partir de cette époque-là que, dans le courant anarchiste, il y a une certaine volonté qui n'est pas uniquement anarchiste, il faut le dire, qui va prendre un nom, c'est-à-dire la propagande par le fait. La propagande par le fait, c'est si on veut mettre le prolétariat devant des faits accomplis pour lui montrer que c'est bien le moment de se révolter et de renverser toute forme d'autorité, bien sûr, pour instaurer l'anarchisme. Seulement, comme je disais, c'est pas uniquement chez les anarchistes que cette volonté-là va se répandre. Vous allez le voir tout au long de mon résumé. Bref, donc, la période terroriste-anarchiste, si on veut proprement dite, s'étendrait environ de 1880 jusqu'à la Première Guerre mondiale, puisque, comme on va le voir par la suite, ça va être beaucoup moins des attentats plutôt que des révoltes carrément qui vont avoir lieu. Mais c'est un phénomène qui est surtout mondial et qui est fortement en lien avec l'immigration. Donc, c'est sur tous les continents qui vont être touchés. Un bon exemple, c'est que le Kaiser William, dans le fond, le Guillaume d'Allemagne, avait refusé de se présenter en Égypte sous prétexte que c'était un nid d'anarchistes. Et à un tel point que, par la suite, c'est devenu un phénomène mondial, à un tel point que les Anglais attribuaient des attentats nationalistes en Inde, les taxaient d'anarchistes, tout simplement. Alors qu'il y a eu, certes, un mouvement anarchiste en Inde, mais on s'entend qu'à l'époque, c'était des revendications nationalistes qui étaient derrière ces motivations-là.
Donc, c'était un mot fourre-tout aussi à l'époque pour essayer de définir à chaque fois qu'il y avait un désordre qui était emmené par un groupe de personnes, c'était des anarchistes qui l'emmenaient.
Exactement.
Et toute la perspective politique du mouvement derrière les actions.
Exactement. Surtout que, aussitôt que certains incidents ont eu lieu, la presse s'est emparée de l'affaire parce qu'il faut le dire, à l'époque, les États-nations étaient, comment dire, assez en forte compétition les uns avec les autres. Donc, c'était pas à travers la diplomatie qu'on exprimait les différents problèmes qui existaient à l'Europe. C'est de cette manière-là, si on veut, que les médias se sont emparés de l'affaire et ont grossi le problème plus qu'il était. C'est donc de cette manière-là que, admettons, on va prendre l'exemple de l'anarchiste italien qui a tué l'impératrice Sissi, Élisabeth d'Autriche, on va dire.
Il y a aussi un président états-unien qui a été assassiné par un anarchiste.
Oui, le président McKinley, mais pour reprendre l'exemple de l'impératrice Sissi, le personnage se disait anarchiste, mais pas tant intéressé par la cause plutôt que par sa propre renommée. Il s'était dit que de s'en prendre à une tête couronnée était le meilleur moyen de frayer la chronique. Mais pour continuer, pour ce qui est des chiffres, entre 1880 et 1914, ça serait vraisemblablement plus de 160 morts et de 500 blessés par des attentats terroristes. On s'entend, ces chiffres-là sont de loin inférieurs à ce qu'on connaît de nos jours avec le terrorisme contemporain. Bien sûr, ces chiffres-là excluent la Russie, puisque la Russie, c'est un cas à part. En Russie, on parlerait d'environ 400 personnes de près ou de loin, mais on s'entend qu'à cette époque-là, c'était de tout courant confondu. Ça serait 7 hommes d'État ou des rois qui auraient été tués par des anarchistes en 40 ans, soit entre 1894 et 1912. Et aucun autre groupe terroriste n'a réussi à en faire autant, si on veut, pour ce qui est des actes terroristes.
Est-ce que c'était vraiment revendiqué par des personnes qui se réclamaient de l'anarchisme, toutes ces affaires-là, ou c'était des personnes au sobriquet anarchiste que
exactement.
Les grands médias...
au sobriquet anarchiste.
C'est là que ça devient plus intéressant, puisque ça serait, pour ce qui est des chiffres que je viens d'émettre, surtout ceux des hommes d'État, ça serait des anarchistes. sauf que ce ne sont pas nécessairement des anarchistes qui s'inscrivaient dans la tradition d'organisation anarchiste de l'époque ou la philosophie, plutôt que des individus agissant pour leurs propres intérêts et qui n'étaient pas nécessairement reliés, comme en Russie, à des organisations combat révolutionnaire. Ce sont surtout, comme je disais, les journaux et les gouvernements qui auront établi plusieurs liens en différents attentats sans signification commune, hormis que les auteurs se réclamaient de près ou de loin de l'anarchisme et qui en l'ont attribué au courant, si on veut, à l'anarchisme at large. Donc, à partir de là, on avait peur d'une espèce de conspiration anarchiste, alors que, comme on l'a compris plus tard, c'était beaucoup par motivation, par intérêt personnel que ces personnes-là agissaient. Donc, ça y est, le mythe de l'anarchiste lanceur de bombes était créé et va répondre favorablement chez les milieux populaires, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont même s'identifier à ce mythe-là, de sorte qu'ils vont s'y mettre eux-mêmes à commettre des attentats. Sauf que là où ce que l'article devient très intéressant, c'est que plusieurs de nations de l'époque vont en profiter pour passer des lois, mais des lois qui vont aussi être plus internationales, c'est-à-dire qu'il va y avoir des conventions internationales. Et il faut le dire, à l'époque, c'était plutôt extraordinaire, puisqu'on parle d'états-nations très forts à cette époque-là, donc peu de coopération, mis à part une diplomatie.
C'est presque un précédent pour les Nations Unies.
Exactement, parce que là, on parle de coopération, puis c'était uniquement pour... en fait, c'est la conférence de Rome, la conférence anti-anarchiste de Rome, où plusieurs policiers se sont rencontrés pour parler eux-mêmes de leur comment eux combattent les anarchistes dans leur pays, quels anarchistes faut surveiller, puisque ils vont s'en rendre compte par la suite, il faut surveiller les immigrants, mais surtout les anarchistes locaux qui partent dans d'autres pays. Mais c'est tout de suite que les policiers vont se rendre compte de l'inefficacité de leurs membres, parce que vraisemblablement, même les corps policiers les mieux formés des États-Unis d'Amérique, présents dans une ville de New Jersey, Patterson, qui était un nid d'anarchistes à l'époque italien, était absolument convaincu qu'il n'y en avait aucun dans sa ville. Donc, faut le dire, le travail policier était très inefficace contre, si on veut, l'échange d'anarchistes. Donc, les informations qui se donnaient étaient davantage de pseudo-sciences. Mais bon, je m'étalerai pas sur le sujet. Donc, c'est un précédent dans la coopération internationale que des corps policiers comme ça de différentes nations s'entendent pour passer différentes lois. Et on va le voir en France, en Belgique, en Argentine, en Italie, en Espagne et aux États-Unis, il y a différentes lois qui vont être passées successivement pour criminaliser davantage les auteurs de crimes politiques et surtout pour les empêcher d'obtenir l'extradition pour crimes politiques. Donc, les anarchistes vont donc être exclus, du crime politique, alors que c'est le crime politique par excellence. Mais bon, bien sûr, par la suite, les policiers vont continuer à travailler, puis là, on parle de bien plus tard, vont se rendre compte que c'est surtout le texte met beaucoup d'emphase là-dessus que plus on cherche à faire de répression sur le mouvement, plus on va engendrer de terrorisme et vice-versa. C'est pourquoi les policiers, par la suite, surtout au tournant du 20e siècle, vont décider de plutôt investir dans des corps policiers pour surveiller tout simplement les rois et reines ou les différents politiciens, plutôt que de chercher à infiltrer les milieux anarchistes, parce qu'un autre ballon va leur exploser en pleine face. Et le meilleur exemple, c'est l'assassinat de Stolypin en Russie. La police payait un ancien anarchiste qui s'était mis à travailler pour la police russe pour obtenir des informations sur les différents milieux, quand il va y avoir des attentats, etc. Mais, la police payait tellement bien que c'était assez... on pouvait facilement monter une affaire du genre, OK, on organise un attentat, je donne les informations à la police, on obtient l'argent de la part de la police, puis avec un peu de chance, on a l'occasion de faire l'attentat. Et comme de fait, le premier ministre Stolypin va être tué dans une représentation de l'opéra. Et l'anarchiste qui va le tuer avait obtenu ses billets de la part de la police. Donc, ça prouve un peu l'inaction de ce qu'on appelle alors la provocation et qui était, si on veut, le mot d'ordre pour la police en 1890 pour arrêter les anarchistes, c'est-à-dire les inciter à commettre des crimes pour ensuite mieux les arrêter. Mais le problème, c'est que les policiers étaient incapables de les arrêter malgré tout, ou s'ils réussissaient à en arrêter, c'était un individu aux intérêts plus ou moins obscurs. Donc, les policiers se sont rendus compte de l'inaction de leur politique. Ils ont donc décidé tout simplement de mieux protéger les différents présidents et ou rois. Oui?
Oui, je sais pas, j'avais lu un peu justement sur ces périodes d'attentats terroristes du milieu anarchiste, entre autres en France, et j'ai l'impression justement que ces lois dont tu avais parlé précédemment, les lois très répressives à l'endroit justement de ce mouvement anarchiste qui avait fait en sorte que de se proclamer anarchiste même était devenu illégal à un moment en France avec les lois scélérates. Exactement.
Et d'où l'appellation libertaire.
D'où l'appellation libertaire. Et justement, c'est des lois qui ont vraiment eu un impact assez négatif sur le milieu anarchiste et qui les ont détournées justement du mode d'action du terrorisme à partir de 1905 pour se tourner justement à ce moment-là vers quelque chose, le syndicaliste révolutionnaire, vers justement essayer à la place de vouloir faire de l'action directe tout de suite et se mettre à deux une partie de la population, s'unir avec la population pour créer un mouvement de masse pour permettre justement de mettre en place les...
Mais en même temps, c'est pas tant des individus en tant que tels qui se sont recyclés, c'était deux modes de pensée qui s'opposaient au sein de l'école anarchiste, celle du syndicaliste révolutionnaire et celle de l'action directe. Ça a juste été comme une sélection naturelle de tendance, parce qu'elle existait déjà.
Mais en fait, c'est... parle de sélection naturelle au niveau politique en ce moment.
Pour vous donner un... ça illustre parfaitement ce que je disais, parce que le meilleur exemple, c'est Émile Pouget, qui était plutôt, si on veut, dans l'action directe avec les diverses publications. À cause des lois scélérates, il a dû quitter la France pour la Grande-Bretagne, qui était alors un pays plus libéral et qui attirait beaucoup d'anarchistes, dont entre autres Karl Marx, qui n'est pas anarchiste, mais bon. Et une fois en Grande-Bretagne, il s'est rendu compte que, dans le fond, l'action directe, si on veut, amenait plus de gens à se tourner vers le syndicalisme révolutionnaire, ce qu'il a fait lui-même. Donc, c'est vrai que la répression policière a tout simplement amené les anarchistes à se structurer à un autre niveau. Et c'est le cas de l'Espagne. Avant 1911, il n'y avait pas de mouvement organisé anarchiste en Espagne, alors que le mouvement était très, très fort. Et c'est l'Espagne qui a eu le plus d'attentats liés aux anarchistes. Donc, à partir de là, dès 1911, il y a une très forte mobilisation anarchiste au sein de la CNT qui va déboucher par la suite, comme on l'a vu, sur la Révolution espagnole en 1936. Néanmoins, à cette époque-là, il n'y avait déjà plus nécessairement d'attentats liés purement et simplement à des anarchistes individuels. Mais bien sûr, le terrorisme, à partir de la Première Guerre mondiale, lui, va s'étendre à toutes les couches, pas à toutes les couches de la population, mais à toutes les revendications possibles. Les Irlandais vont le faire aux États-Unis et en Irlande pour leur indépendance nationale. Les Indiens vont le faire en Inde et ainsi de suite. Donc là, tout de suite, le mot va tendre à s'internationaliser. Et c'est là que l'article va le mettre en lien avec Al-Qaïda. Comme quoi, il y a beaucoup de similitudes entre les deux tendances terroristes. Néanmoins, l'une s'oppose farouchement à l'autre puisque il y en a une qui vise tout simplement à l'obtention d'un certain pouvoir pour instaurer, bien sûr, si on veut, un califat avec la loi, la charia, et bref, qui s'inscrit dans un dogme religieux, alors que l'autre souhaite tout simplement abolir ce qu'elle considère comme étant une forme d'oppression. Puis là, pour ce qui est des similitudes, c'est tout simplement dans... en fait, il y a beaucoup de différences surtout qu'il faut noter, c'est-à-dire les Al-Qaïda est une organisation qui est centralisée avec des camps d'entraînement et qui va agir dans d'autres pays alors que les anarchistes n'étaient souvent des cas isolés, en fait des individus isolés qui agissaient par leurs propres intérêts et pour leurs propres intérêts et qui le faisaient dans le pays où ils se trouvaient actuellement. Donc c'est une des différences marquantes que l'auteur faisait entre les deux tendances terroristes. Et il terminait en disant tout simplement que plus on va mettre d'efforts à, parler de la chose, donner une identité au terroriste, lui donner une dimension qui lui est propre, et plus on va s'acharner à la détruire, plus on va engendrer de cette même tendance-là, plus on va en engendrer. Pourquoi? Puisqu'on l'a créé de toutes pièces. Et qu'on incite les gens à la rejoindre, toute personne qui vont s'identifier à ce dogme-là, si on veut. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir les... Mais en fait, le parallèle est exactement le même actuellement avec Al-Qaïda. On va créer des terroristes de toutes pièces, on va leur donner le qualificatif de terroriste. Puis de nos jours, terroriste, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire un arabe musulman, islamiste, qui est un peu extrémiste. Puis tout simplement parce que c'est ce que les policiers ont décidé que c'était, c'est ce que les hommes d'État ont voulu que ce soit. Et là, maintenant, des centaines de personnes qui, auparavant, n'auraient jamais pensé donner leur peau à une quelconque cause, bien, sont prêts à le faire. Puis, en tout cas, c'est très paradoxal, mais ça marche très bien. Puis, ça permet, comment dire, aux États de passer de bonnes lois liberticides, comme on dit, qui se veut pour nous brimer nos libertés individuelles, et ce au profit d'un État policier fort. On le remarque au Canada, on le remarque surtout aux États-Unis et en France, et ce n'est que le début.
C'est ça, on peut d'ailleurs faire peut-être un petit parallèle avec ce qui se passe en France, avec la création de la mouvance anarcho-autonome, et justement... Un mouvement qui a été créé de toutes parts pour faire peur aux Français et que justement qui commence
à faire des petits
et justement c'est la même idée de en créant un groupe, en essayant de définir quelque chose qui est pas vraiment existant, ben tu finis par le faire exister en tant que mouvement et plus en tant que mouvance simplement, en tant que chaîne de pensée uniquement
Puis c'est surtout si on veut la chaîne. Il y a l'État, le pouvoir qui se défend, puis qui crée, qui se défend avec sa police. La police qui va aller chercher les renseignements, mais qui va surtout défrayer les journaux, bien sûr. Et puis, le mélange des deux va créer complètement une identité mythique qui est un peu abstraite et auquel vont s'identifier les gens. Et puis, la violence en découle, bien sûr.